Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30.
Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL midi. Et voici les titres de l'actualité de ce mardi 26 février. L'assurance chômage aura bien sa réforme avec un bonus-malus pour les contrats courts et de gros salaires dans le viseur. C'est la promesse d'Édouard Philippe ce matin. Abattus, fatigués mais pas vaincus, les salariés d'Ascoval se battent encore pour trouver un repreneur. Bercy et les syndicats se donnent un mois supplémentaire. Premier invité de RTL Midi, Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval. Un hijab de course pour les femmes voilées adeptes de running. Un nouveau produit lancé par Decathlon qui assume cette commercialisation. Deuxième invité de RTL Midi, Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Alexandre Djouri veut faire appel, l'homme clé de l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy pourrait être extradé de Grande-Bretagne. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Et cet après-midi, on profite encore du soleil.
Oui, et on va encore battre des records de douceur et des records d'ensoleillement jusqu'à demain soir avec du grand soleil cet après-midi du nord jusqu'au sud et des températures toujours très élevées au-dessus des normales de saison de 10 degrés. 25 degrés cet après-midi encore au Pays Basque, 24 à Bordeaux, 22 à Limoges, 20 degrés à Paris et Perpignan, 19 à Lille, Nancy et Lyon et 16 degrés à Cherbourg.
Vous nous faites rêver, merci Patricia. À tout à l'heure dans la fin du journal. La question du jour sur RTL.fr. Faut-il commercialiser en France le hijab de course? Vous dites oui à 5% seulement, non 91%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook, sur Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Bénédicte,
effectivement. On va en parler bien sûr avec vous.
Bon, j'imagine que les auditeurs réagiront. Faut-il le commercialiser? Allez-vous boycotter l'enseigne Decathlon? Êtes-vous choqué? Bien sûr, on vous attend au 3210. Autre sujet du jour, 6 salariés sur 10 qui avouent s'ennuyer au travail. C'est évidemment pas notre cas. Et vous? On posera la question aux auditeurs. Le Conseil de l'Europe appelle à suspendre l'usage du LBD. Vous allez en parler dans le journal. Et puis, retourner vivre chez ses parents après 40 ans. Le film Tanguy va revenir sur grand écran. Ça sortira le 10 avril 2019. C'était l'avant-première hier soir. Si vous avez plus de 40 ans et si vous habitez chez vos parents, 3210.
À tout à l'heure, Pascal.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Le chiffre du jour, 3810 euros bruts de primes pour les salariés français de PSA gagnant jusqu'à deux fois le SMIC, soit un peu plus de 3000 euros. C'est la bonne nouvelle donnée ce matin par le patron du constructeur français Carlos Tavares. Florian Martin, bonjour.
Oui, bonjour.
Un bonus qui récompense du bon travail.
Oui, avec presque 20% de chiffre d'affaires en plus l'année dernière. Plus de 3,8 millions de voitures vendues dans le monde. Le groupe PSA est sur un petit nuage financier. C'est même une année historique pour le groupe qui a réalisé 80% de ses ventes en Europe. Carlos Tavares se voit même pousser des ailes. Il parle d'un retour de Peugeot sur le marché américain, de Citroën en Inde. Bref, PSA est en confiance et part à la conquête de nouveaux marchés. Alors pourquoi le groupe est-il en si bonne forme? Déjà, il a réduit sa gamme, moins de modèles présents au catalogue, avec plus de véhicules rentables. Il surfe sur la vague des SUV, avec notamment le 3008 pour Peugeot. Il s'est donné une image premium avec DS et surtout, il a fait une affaire il y a un an et demi et qui explique en grande majorité ses chiffres records, l'achat de l'allemand Opel. Impacté dans le résultat global, les ventes d'une nouvelle marque, forcément ça aide et ça élargit les perspectives d'avenir.
Forcément, merci Florian Martin, spécialiste automobile pour RTL. Le gouvernement n'a pas traîné pour reprendre les rênes de la réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux ont échoué la semaine dernière, vous le savez, à trouver un accord. Impossible pour le patronat et les syndicats de s'entendre sur un possible bonus-malus pour les contrats courts, ceux de moins de un mois. Alors ce matin à Matignon, Édouard Philippe annonce une réforme pour le printemps. C'est-à-dire dans quelques semaines, une concertation va avoir lieu, mais d'ores et déjà, le Premier ministre pose les jalons.
70% des embauches se font aujourd'hui en contrat de moins d'un mois. Dans 8 cas sur 10, c'est la même personne que l'on réembauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés subissent des mois, voire des années, une précarité sans perspective d'évolution. Ce statu quo n'est pas tenable. Nous considérons que les entreprises doivent être beaucoup plus responsabilisées. Nous pouvons refaire désormais, du CDI et des contrats longs, la norme à l'embauche. Il est clair que cet instrument du bonus-malus est une solution. Deuxième sujet, il faut que le travail paye toujours plus que le chômage. Mais il existe des cas où le montant de l'allocation chômage mensuel est plus élevé que le salaire mensuel moyen perçu antérieurement. Et ce système a évidemment pour conséquence de maintenir les chômeurs dans une forme de précarité. C'est quelque chose que nous ne pouvons plus accepter.
Édouard Philippe avec Anaïs Bouissou sur RTL. Les actes et les séjours en hôpital bientôt plus chers, plus 0,5% cette année, annonce ce matin sur RTL la ministre de la Santé. Les fédérations publiques et privées réclamaient une augmentation minima de 1%, mais Agnès Buzyn précise que cette hausse de 0,5%, c'est déjà historique puisque depuis 10 ans, les tarifs sont en baisse régulière. Un nouveau délai pour trouver un repreneur pour Ascoval. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui l'annonce ce matin. Christophe Ponzio, une solution doit être absolument trouvée pour sauver l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord. Une solution sans le groupe Altifor.
Oui, et pour l'anecdote, il a même été demandé aux représentants d'Altifor de quitter la réunion à Bercy ce matin, incapable de dire s'il disposait ou non des 10 millions d'euros de fonds propres promis pour la reprise d'Ascoval. Le ministre Bruno Le Maire a donc mis les choses au clair.
J'ai demandé à Altifor de cesser toute participation dans ce dossier et de se retirer de toute possibilité de reprise. Donc nous avons tous décidé collectivement de nous donner un mois supplémentaire pour trouver un repreneur pour le site d'Ascoval.
Un mois de course contre la montre jusqu'à la fin mars pour convaincre de nouveaux industriels, des investisseurs. Plusieurs d'entre eux se sont déjà manifestés. Les carnets de commandes se remplissent aussi et le nombre de clients de l'usine a triplé. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, veut y croire.
Oui, un mois c'est court, mais on ne part pas d'une page blanche. Parce que ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on a travaillé avec des avocats, qu'on a mis sur la table des financements publics, et puis surtout, encore une fois, les carnets de commandes. Ça, c'est pas du vent.
Un nouveau point aura lieu dans les 15 jours. Bruno Le Maire reste néanmoins prudent.
Les chances de réussite ne sont pas garanties, mais ça vaut le coup de se battre.
Le tribunal de commerce de Strasbourg doit encore annuler la cession de l'aciérie à Altifor demain et valider ce nouveau délai.
Christophe Ponzio à Bercy pour RTL. Alors avec nous, pour aller plus loin, Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval. Bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement a donc demandé ce matin au groupe Altifor de se retirer de tout projet de reprise. Comment avez-vous accueilli cette annonce ?
Ben, il fallait ce moment de clarté, puisque l'annonce la semaine dernière de Bercy du retrait d'Altifor, puis la désannonce Altifor qui dit on est encore présent, on continue à chercher une solution, a pollué un peu notre communication. Elle a aussi gêné la recherche d'une solution de secours. Donc il fallait ce moment de clarté.
Alors 280 emplois en jeu, comment réagissent les salariés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les salariés sont un peu abattus, pour pas dire beaucoup. Certains résignés, parce que il y a la longueur, il y a ces 4-5 ans de combat qui commencent à peser très lourd psychologiquement sur les personnes. Aujourd'hui, les salariés sont prêts à y aller à une condition, c'est qu'on trouve une solution fiable, avec un industriel costaud et une vraie solution industrielle. Pas un rabibochage de dernière minute avec quelques millions par-ci, par-là.
Pour vous, c'est clair, vous êtes sur la même position que Bruno Le Maire, il faut repartir de zéro.
Ah, on n'a pas le choix, il faut revenir en arrière dans un premier temps demain au tribunal, ce qui va permettre de payer les salaires et de payer les fournisseurs. Et ensuite, il faut, s'il y a une solution, il faut la trouver très rapidement.
Mais vous pensez vraiment qu'il y a une solution ? Est-ce qu'il y a des pistes ?
Il y a des industriels qui ont été contactés. Je vous rappelle quand même qu'on avait un carnet de commandes qui commençait à s'étoffer. On a un potentiel de 300 000 tonnes sur l'année. C'est quand même pas rien. On a aussi 47 millions d'argent public qui reste mobilisé pour l'entreprise. Ça va faciliter l'arrivée d'un investisseur. On reste quand même une des aciéries les plus modernes en Europe, la deuxième classée au niveau des aciers spéciaux. On pollue 9 fois moins que nos concurrents. Donc forcément, on a des attraits et ces attraits-là, il faut qu'on les utilise.
Je reviens sur les repreneurs. On peut chercher des repreneurs, mais est-ce qu'il y en avait d'autres à part Altifor ?
Sur le dossier tel qu'il était présenté avec Vallourec en épouvantail, non. Aujourd'hui, la situation est plus claire puisqu'on est sans Vallourec. On a prouvé également qu'on avait su baisser la productivité, contrairement à ce que Vallourec disait. Le carnet de commandes est là, donc il y a des volumes. Je veux dire, pour l'investisseur, le gros du travail a été fait par Altifor.
Vous sentez une réelle volonté de la part du gouvernement de vous aider dans ce dossier ?
Ah, mais aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le choix. Bruno Le Maire n'a pas le choix. C'est quand même lui, depuis fin d'année, qui nous dit on va sauver la Syrie. La Syrie est viable. On a fait des expertises. Il faut qu'on y aille. Donc, bien sûr, il faut qu'il mette les moyens.
Un mois pour trouver un autre repreneur. Est-ce que c'est un délai suffisant ?
Vous savez, ça fait maintenant 4 ans qu'on se bat. On nous a donné mort 3 fois. Alors, pourquoi pas une quatrième fois ? Et un mois, c'est bien. C'est court. Mais je pense qu'aller beaucoup plus loin, ça va être difficile psychologiquement de tenir les gens.
Merci Bruno Kobzinski d'avoir répondu aux questions de RTL. Une pause et dans un instant, le hijab de sport de Décathlon déclenche un tollé.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
C'est un accessoire de sport qui fait polémique. Décathlon commercialise au Maroc et en ligne un hijab de sport. Un voile musulman destiné aux femmes adeptes du running. Et sur le site de la marque, on peut lire qu'il est conçu pour la coureuse qui souhaite se couvrir la tête et le cou pendant la course. Un produit validé pour son confort et sa respirabilité est bientôt disponible en France, souligne encore Décathlon. En France et notamment dans la sphère féministe, on dénonce cette promotion de l'apartheid sexuel. Avec nous en studio. Bonjour Jeannette Bougrabe.
Bonjour.
Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Vous venez de publier en ce début d'année le livre « Lettres aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent » aux éditions du Cerf. Comment qualifiez-vous le comportement de Décathlon et l'annonce de cette commercialisation ?
Je trouve que cette décision est cynique, qu'elle participe de cette fausse conscience qui est de dire quelque part, le voile est juste un morceau de tissu. Il ne l'est pas. Quand on voit qu'en Algérie, des femmes se rebellent, décident de s'opposer au port obligatoire du hijab parce que la femme ne s'appartient pas, il faut quand même revenir à la signification du voile. C'est quand même un objet de ségrégation, c'est un objet de soumission de la femme. Et la preuve en est, je suis obligée d'en venir là, mais une des premières décisions que prend Khomeini quand il établit sa République islamique, c'est d'imposer le hijab à tout le monde. Donc on ne nous explique pas aujourd'hui que le hijab n'a pas de signification. Aujourd'hui, des femmes sont détenues et torturées dans des prisons en Iran, en Arabie Saoudite, pour s'opposer au port de ce voile. Quand c'est une contrainte ailleurs et qu'on décide de le commercialiser pour gagner de l'argent au nom d'une sorte de cupidité, je trouve qu'on est complice de cette idéologie rétrograde et inique à l'endroit des femmes.
Et Décathlon affirme rendre le sport accessible à toutes les femmes
blague.
Dans le monde.
C'est une blague. D'abord, il faut savoir que dans beaucoup de pays musulmans, les femmes sont exclues d'un certain nombre de délégations, qu'elles ont l'obligation de se couvrir, sinon elles ne peuvent pas, et on refuse. Donc et on se moque du monde. Et je trouve que là, ils poussent un peu loin le bouchon, qu'ils peuvent dire tout simplement qu'ils souhaitent et ils ont un marché, que le marché du halal ou du commerce islamique est un marché juteux et qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais pitié qu'ils ne disent pas qu'ils vont rendre service aux femmes.
Ils ne parlent pas d'un engagement sociétal.
Mais c'est une honte de dire cela. C'est un mensonge. Enfin, je veux dire, c'est de la publicité mensongère, là. Mais vous vous rendez compte que des femmes, par exemple, je prends le cas de cette jeune Algérienne qui avait pourtant le hijab, qui courait pendant le ramadan, qui a été agressée. Des femmes qui pourtant portent le hijab sont agressées. Donc je vous dis, en Algérie en ce moment, alors même qu'il y a une vague de protestations, comment en France, nous, on explique qu'on commercialise et que c'est pour permettre aux femmes de pratiquer le sport normalement, elles devraient le faire sans avoir à porter ce tissu. Mais je le rappelle encore que des femmes sont exclues de sport si elles ne portent pas cela.
Mais Jeannette Bougrabe, cette vente est légale?
Ah oui, donc ça, qu'elle est légale, j'en doute absolument pas. Et il y a quelques mois, Elisabeth Malinter, dans les colonnes du journal Le Monde, appelait au boycott de certaines marques qui avaient créé des capsules de collection sur ça. Mais je trouve assez cynique, là, il y a quelques mois, Gap avait mis en valeur des petites filles qui portaient le hijab pour prendre des vêtements. Aujourd'hui, on nous explique que porter le voile, c'est pour permettre aux femmes de faire le sport. Et de l'autre côté, on ferme les yeux sur celles qui sont assassinées, emprisonnées, parce qu'elle refuse de le porter.
Voilà. Vous vous appelez aussi au boycott de cette marque ?
Non, parce que moi, je me positionne jamais ainsi. Voilà. Par contre, je n'irai pas. Voilà, je n'irai plus. Et c'est d'autant plus triste parce qu'on se dit que Nike ou ces grands géants américains, sans foi, sans âme et sans foi, on n'est pas surpris, mais qu'une marque française du nord de la France qui participe à l'identité de ce qu'est ce modèle républicain, je trouve ça dommage.
Voilà. Dernière question, qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes qui veulent porter ce voile de course?
Mais qu'elles le portent, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est quand on nous ose nous expliquer. Alors même, je vous dis, en Algérie, il y a cette jeune fille de 16 ans qui a été assassinée parce qu'elle ne portait pas le hijab, que se dire qu'on rend service aux femmes. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Aujourd'hui, des femmes ne sont pas libres de pouvoir ne pas le porter. Nous expliquons que ça va favoriser la pratique du sport, c'est du mensonge.
Voilà. Merci Jeannette Bougrabe d'avoir été l'invitée de RTL Midi. Je rappelle que vous avez publié Lettre aux femmes voilée et à ceux qui les soutiennent aux éditions du Cerf. Ils ne voient rien venir, les éleveurs. Les négociations commerciales sur le prix du lait se terminent dans 2 jours. La filière est montrée en exemple par la grande distribution. Le prix du lait devrait être revalorisé suite à la fameuse loi alimentation. Oui, mais tout ça, Jacques Serey, c'est sur le papier et dans les allées du Salon de l'agriculture. Les propriétaires de vaches laitières ne sont pas si optimistes.
Ces mots sont prononcés par la grande distribution.
Quand on sait que des laitiers gagnent moins de 350 € par mois, je pense que c'est plus acceptable.
Michel Biérot est l'un des directeurs de Lidl France et il souhaite que les agriculteurs soient mieux rémunérés.
Il suffit de quelques centimes pour que les éleveurs soient satisfaits.
C'est pourquoi il s'est engagé auprès de Sodiaal, l'un de ses principaux fournisseurs de lait.
C'est simple, c'est écrit là, c'est 1,9 centimes de plus que l'année dernière par litre de lait.
Mais Michel Biérot dit avoir aussi des difficultés à négocier avec les industriels.
Je dois m'assurer que ça rentre dans la poche de l'éleveur. Mince, on doit partager la valeur.
Ces intermédiaires entre la grande distribution et les producteurs de lait, Jean Moreau, patron de la Fédération des industriels laitiers, est leur principal représentant.
On n'est quand même pas en pays totalitaire et il y a le respect de la liberté contractuelle. Il faut arrêter de dire des bêtises.
Une tension et des millions d'euros en jeu.
Au niveau des négociations au cœur des boxes, les comportements n'ont pas beaucoup varié d'un an sur l'autre. Dire que ça permettra de vraiment revaloriser le prix du lait fortement cette année, j'y crois absolument pas.
Marie-Thérèse Bonneau, productrice de lait en Vendée, elle s'interroge sur les retombées promises par cette loi alimentation.
La question, c'est est-ce que ça sera un ruissellement, une cascade? Nous, on veut être mouillés par l'eau, parce qu'aujourd'hui, on n'est que dans la promesse.
Et pour savoir si la loi leur aura été bénéfique, les éleveurs devront attendre le début du mois d'avril et les premières livraisons de lait concernées par les nouveaux contrats.
Jacques Serey au Salon de l'agriculture pour RTL. Si vous achetez encore vos billets de train par téléphone au 36 35, sachez que ce numéro ne sera plus surtaxé avant l'été. Une annonce du patron de la SNCF, Guillaume Pépi, et une économie de 40 centimes par minute en plus du prix d'un appel local. Avec le beau temps, la pollution continue dans plusieurs régions de France, particulièrement en Île-de-France, dans le Rhône et dans les Hauts-de-France. À Lille, le préfet envisage même de mettre en place demain la circulation différenciée. En attendant, la vitesse est réduite de 20 km/h, Franck Hanson.
Oui, en effet, l'arrêt est court depuis hier soir. Pas plus de 110 km/h sur l'autoroute du Nord, 70 même sur le périph ou 90 sur certaines portions. Une mesure pour réduire les polluants dans l'atmosphère, précise le préfet du Nord, qui entend mettre en place des contrôles drastiques. Et sur l'île, donc, les automobilistes s'adaptent, contraints et forcés.
C'est compliqué, mais ce sont des habitudes à prendre. On n'a pas beaucoup de solutions pour l'instant, à part changer de voiture. Donc, pour le moment, limiter la vitesse, c'est déjà pas mal. Alors, je sais pas si c'est efficace. Je pense que le problème, il vient pas uniquement des voitures.
Ça a piconné à la gorge.
Réduire la vitesse de 20 km/h, c'est quand même difficile. Surtout quand on est souvent sur les routes.
La capitale des Flandres, qui a déjà connu plus de 60 jours de pollution aux particules fines l'an dernier, alors que l'OMS recommande de ne pas en dépasser plus de 3. Il était temps que les autorités se bougent, confie Christopher Liénard, le président de l'association Les Amis de la Terre Nord, très mobilisé sur ce scandale sanitaire.
J'ai envie de dire enfin. On est content de voir arriver des mesures de circulation restreinte, mais ça arrive beaucoup trop tard. On devrait prendre des mesures de long cours tout au long de l'année, pas seulement ponctuellement, pour diminuer le nombre de voitures sur les routes notamment. C'est quelques pourcents de pollution en moins, mais si c'est quelques pourcents qui peuvent sauver des vies, je pense que ça vaut le coup.
Une pollution de l'air qui ferait 1700 morts par an dans la métropole lilloise, rappellent les spécialistes. Une prise de conscience s'opère doucement, mais ce qui n'empêche pas malgré tout de profiter du soleil sur les terrasses de la Grand Place.
Profitez, Franck Hanson, à Lille, pour RTL. Une pause et dans un instant, Alexandre Djouri pourrait bientôt s'expliquer en France sur le financement libyen présumé de la campagne de Sarkozy.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Midi et bientôt 52 minutes sur RTL. Alexandre Djouri peut être bientôt devant la justice française. Les Britanniques viennent de dire oui à la demande d'extradition de Paris de l'homme d'affaires. Alexandre Djouri, c'est le personnage clé, vous le savez, de l'enquête française sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Ce n'était peut-être pas encore la fin de cette partie de cache-cache qui dure depuis plus d'un an maintenant, puisque Alexandre Djouri vient d'annoncer son intention de faire appel, Marie Billon.
Ah oui, Alexandre Djouri est sorti du tribunal, pas surpris, dit-il, mais très remonté.
C'est politique, c'est juste un montage Hollande, Valls, les trois, Mediapart, évidemment le PNF et Tourner. C'est une bande organisée, parce que franchement, je vois pas ce qu'ils pourraient me reprocher. Parce que s'ils avaient quelque chose à me reprocher, ils me convoquent dans les règles, ils viennent comme ils m'ont fait perquisitionner, ils n'ont absolument rien trouvé. Donc ils ont inventé une fuite pour pouvoir m'arrêter à Londres.
C'est effectivement la ligne de défense de ses avocats. Maître Éric Dupond-Moretti avait estimé que son client n'avait jamais fait l'objet d'une convocation dans les règles et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme en fuite. Alexandre Djoury reste sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice française, notamment pour détournement de fonds et corruption. Il va donc faire appel dans les 6 prochains jours et évitera ainsi d'être extradé dès la semaine prochaine. Il reste en liberté provisoire sous les mêmes conditions qu'avant la décision d'aujourd'hui. Il doit se présenter à la police tous les jours et ne peut se déplacer que dans 2 quartiers de Londres.
Marie Billon à Londres pour RTL. À l'étranger, toujours Bouteflika dégage non à un 5e mandat. Voilà ce qu'on peut lire sur les pancartes des étudiants qui se mobilisent à leur tour aujourd'hui en Algérie contre un 5e mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika. Depuis 10 heures ce matin, ils se rassemblent dans toutes les universités. Ils sont ainsi plus de 500 sur le campus d'Alger. 3e évacuation de la semaine hier depuis la petite poche de résistance encore tenue par l'État islamique dans le village de Baghouz, tout à l'est de la Syrie. Une 40aine de camions chargés d'hommes, d'enfants et de femmes. Des femmes en niqab, bien souvent des yézidis, réduites à l'esclavage pendant des années par les djihadistes. Au micro d'Émilie Beaujard, elle raconte.
Elle sort de 5 ans d'enfer. Kidnappée, vendue, violée, réduite à l'esclavage, Afrin vient de trouver refuge dans un village yézidi au nord de la Syrie. Elle raconte avoir vécu à Mossoul et à Raqqa.
Dans la rue, les gens savaient qu'on était des esclaves. On pouvait être vendu plusieurs fois par jour à des djihadistes différents. On nous vendait pour tout et n'importe quoi. Parfois, on nous achetait pour 10 dollars, puis ils nous emmenaient dans un salon de beauté pour nous faire jolie, et ensuite, ils nous revendaient pour plus cher.
Elle insiste à plusieurs reprises sur la violence des femmes de djihadistes. C'était les pires, dit-elle. À côté d'elle, Adia peut en témoigner. Cette petite fille d'une dizaine d'années a une marque au visage, un coup de fer à repasser pour avoir voulu aider une femme en détresse.
J'étais esclave, j'étais leur fille à tout faire. Je nettoyais leur maison, la cuisine, je faisais la vaisselle, j'étais très maltraitée. Parfois, je passais la journée sans manger et j'allais me coucher le ventre vide. Quand j'étais malade, on ne m'aidait pas. Personne ne se souciait jamais de moi.
Adia ne sait plus quel âge elle a. Elle a perdu la notion du temps, mais pas encore toute son innocence. En attendant de retrouver ses parents en Irak, elle s'amuse en regardant des dessins animés sur un téléphone.
Le reportage d'Émilie Beaujard avec Jonathan Griveaux près de Baghouz en Syrie pour RTL. Du football ce soir au Parc des Princes avec le premier quart de finale de la Coupe de France entre le PSG et Dijon. Le Paris Saint-Germain et ses stars archi-favoris battre Dijon 19e relégable en championnat peut paraître une formalité aux Dijonais de prouver le contraire. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans quelques minutes. Pascal Pro, vous avez écouté ce journal. Qu'en avez-vous retiré ?
C'était formidable évidemment d'écouter Jeannette Bougrabe. Il y a des femmes qui se battent pour ne pas porter en Iran, disait-elle, ou dans d'autres pays, le djihad, qui est évidemment un voile de domination, de soumission de la femme dans le monde entier. Et nous, en France, une marque française, Décathlon, le commercialise. Et elle était peinée, disait-elle à l'instant, peinée que ce soit précisément une marque française. Elle disait que ce soit Nike, pourquoi pas, mais une marque française fait ça aujourd'hui en France. Je partage une forme d'indignation ou de colère de voir effectivement une marque française qui va commercialiser ce qui est un outil, disons-le, de domination ou de soumission de la femme. Donc vous pourrez évidemment donner votre avis durant les auditeurs ont la parole.
Et on vous retrouve après 13h avec après, tout ça au 3210. Ce n'est pas encore l'été ou presque, Patricia Charbonnier, alors un petit peu de musique pour nous rappeler les vacances à la plage.
Despacito.
6 milliards de vues sur YouTube. 6 milliards de vues. Despacito vient de battre un nouveau record. C'est la vidéo la plus regardée sur ce réseau social. Alors Patricia, il fait beau, encore du beau soleil partout cet après-midi.
Et moi aussi j'ai des records, de nombreux records d'ensoleillement, de nombreux records de douceur et même de chaleur. Ce sera le cas cet après-midi encore avec des températures en hausse jusqu'à 25 degrés à Biarritz, 24 à Bordeaux, 22 à Limoges et Montauban, 20 degrés à Paris, 19 à Lille, Nancy, Lyon et Brest et 16 à Cherbourg. Et si on regarde les cartes du ciel, eh bien c'est une carte encore toute bleue, un ciel parfaitement dégagé du nord jusqu'au sud et ce jusqu'à ce soir.
Et demain, c'est la dernière journée de grand beau.
Oui, encore quelques brumes demain matin, du soleil ensuite, du plein soleil toute la journée avec des températures fraîches en matinée. Moins 2 degrés à Reims, 1 degré à Aurillac, 3 à Lille, 4 à Nantes, 7 à Paris, 10 degrés à Nice. Et on va encore gagner 1 ou 2 degrés. C'est sans doute le pic de douceur de cette séquence printanière avec pour demain après-midi 17 degrés à Nice pour la température la plus basse. 21 degrés à Paris comme à La Rochelle, 22 à Bourges, 26 degrés à Biarritz. Et donc à partir de jeudi, c'est un changement de temps avec une première perturbation qui va traverser le pays, sauf le sud-est où là ce sera encore très ensoleillé. Mais ailleurs, ce sera un temps très nuageux, instable avec des averses, petite baisse des températures. Et à partir de vendredi et surtout pour le week-end, là c'est une dégradation assez marquée, notamment sur la moitié nord du pays. Puis finalement, on va retrouver des températures de saison.
Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto.
Merci Patricia. Alors on parle des pollutions, on parle des beaux temps. Eh bien sachez qu'en Île-de-France, la décision à l'instant du préfet de police de Paris, mise en place de la circulation différenciée à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0 à 3 pourront circuler dans ce périmètre. Dans un instant, le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
RTL Midi.
Il est 13h.
Tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Agnès Bonfillon, bonjour Agnès.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Pour lutter contre les particules fines, les véhicules les plus polluants seront interdits demain à Paris et en proche banlieue. Annonce il y a quelques instants de la préfecture de police, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0 à 3 pourront circuler. Rendre la course à pied accessible à toutes les femmes, Décathlon assume la commercialisation d'un hijab pour faire la course à pied. Le voile recouvre également le cou, l'ovale du visage. L'article fait polémique chez les Républicains. Valérie Boyer y voit une régression des droits des femmes au profit d'une concurrence, dit-elle, entre Décathlon et Nike, qui avait également mis cet accessoire en vente.
Je suis vraiment très déçue et triste de voir que Décathlon cède à une sorte de concurrence avec Nike, parce que c'est pour se positionner comme eux sur la mode islamiste. On devra assumer notre singularité française de la liberté de la femme et de laïcité. Vous verrez que les jeunes filles seront obligées de mettre ce voile et que ce sera un marqueur à la fois identitaire, mais on leur mettra dans la tête et on leur dira que si elles courent sans le voile, elles sont impudiques et immodestes. Je ne vois juste qu'un défi de plus lancé à nos mœurs et à notre mode de vie.
Valérie Boyer avec Mélina Fachin pour RTL. L'État se donne un mois pour trouver un autre repreneur pour la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le repreneur potentiel Altifort a abandonné le projet. Il n'a pas les fonds pour assurer l'avenir du site. Les frais hospitaliers vont augmenter de 0,5% cette année, annonce d'Agnès Buzyn ce matin sur RTL. Cela faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, rappelle la ministre de la Santé. C'est censé donner un peu d'oxygène aux hôpitaux. Et c'est une très bonne nouvelle, selon Lamine Garbi, président de la Fédération hospitalière privée.
Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir enfin une reconnaissance tarifaire face aux besoins des hôpitaux et des cliniques privées. 30% des cliniques hôpitaux privés sont en déficit, de conséquence des difficultés sociales et surtout un retard d'investissement. Évidemment, on aura attendu une hausse peut-être supérieure, mais déjà, ça encourage à travailler tous ensemble. Quand on est satisfait, il faut le dire, parce que le pays traverse des difficultés certaines, mais quand on a un peu de lueur d'espoir et une envie de travailler ensemble, il faut le dire.
Lamine Garbi, joint par Marie Guerrier pour RTL. La justice britannique ordonne l'extradition d'Alexandre Djouri vers la France. L'homme d'affaires est un personnage clé dans l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Alexandre Djouri compte bien faire appel de cette décision. Il a 7 jours pour le faire. C'est une pratique normale. Le porte-parole du Kremlin ne voit pas en quoi le stage de sa fille au Parlement européen pose problème. La jeune femme travaille auprès d'Emeric Choprade, l'ex-conseiller de Marine Le Pen. Lui aussi n'y voit aucun souci.
C'est une excellente stagiaire. Elle est étudiante à Paris depuis des années en droit. Pour moi, elle est d'abord une étudiante avant d'être la fille de son père. Ça poserait un problème s'il y avait conflit d'intérêts et s'il y avait un problème de sécurité. Le Parlement européen l'a dit hier, mademoiselle Peskova n'avait pas accès à des données confidentielles. Pas plus que moi d'ailleurs.
Votre stagiaire russe est rémunéré comme tous les stagiaires, 1000 euros par mois. Vous n'avez pas préféré donner ce poste à une Française ?
J'ai eu 4 stagiaires avant, elle est la 5e, ils étaient tous français. 1 sur 5, ça ne me paraît pas un très mauvais ratio pour l'ouverture internationale.
Aymeric Choprade avec Béatrice Adjadj pour RTL. C'est une après-midi ensoleillée qui débute et encore chaude pour un mois de février. L'occasion de déjeuner au soleil en ce moment même, surtout quand on est en bord de mer, comme à Pornic en Loire-Atlantique.
Un ciel bleu, plus bleu que ça, je sais pas. Hein. Je vais même enlever le manteau en direct, oui, parce que là j'ai chaud. C'est inhabituel quand même, hein. c'est bizarre.
En quoi c'est bizarre ?
Ben, se dire qu'on est au mois de février, puis il fait si chaud. Du jamais vu. De toute façon, le soleil, ça remonte le moral.
Ça donne la pêche. Avant les vacances, là, les gens étaient moroses. Ça n'allait pas. Les gens étaient vraiment négatifs dans tout. Et depuis que le soleil est là, ça y est, tout le monde est positif, tout le monde revoit les choses autrement, tout le monde a le moral, c'est reparti.
Et regarde, moi, j'ai le teint qui redevient bien, là, la peau qui se retend, ça fait vachement du bien, moi, je trouve. Non, mais un soleil comme ça, au mois de février, c'est quand même magnifique, quoi.
C'est fabuleux.
Fabuleux propos recueillis par Patrice Gabart pour RTL. Direction la Bourse de Paris, où nous attend Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Agnès.
Marché un peu plus prudent, Sylvie.
Oui, c'est un peu moins fabuleux sur la bourse aujourd'hui. Moins 0,2% pour un CAC 40 à 5219. On s'est un peu calmé. On attend cet après-midi une batterie de statistiques américaines. Et puis plus tard dans la soirée, un discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devant le Sénat. Alors, compte tenu du ralentissement économique outre-Atlantique, la politique monétaire américaine devrait donc rester accommodante. Au sujet des discussions commerciales avec les Chinois, l'optimisme béat des dernières séances n'est plus d'actualité. Il reste de nombreux sujets d'achoppement, comme par exemple les transferts de technologies, la propriété intellectuelle ou encore la faiblesse chronique de la devise chinoise. Du côté des valeurs, Peugeot et Thalès sont dans le rouge après l'annonce de leur résultat 2018 ce matin. Les deux titres cèdent autour de 2%. À l'inverse, Fnac Darty est toujours entourée, elle gagne 3%.
Merci beaucoup Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Dans un instant, évidemment, les auditeurs ont la parole. Pascal Praud attend vos appels comme tous les jours au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.